Louis.
C'est par là.
Me voilà au Vietnam.
C'est ici qu'elle est née.
Avec ma mère et mon oncle, on s'est mis en tête d'organiser une cérémonie funéraire en mémoire de Tan Gisel. On est dans son village natal, près de la tombe de ses parents.
C'est toi, c'est ta tante, donc c'est différent.
On a mis du temps à trouver les membres de la famille encore sur place. Un cousin éloigné aux États-Unis m'a mis en contact avec sa nièce allemande, qui elle-même avait le contact de la fille du neveu de la grand-mère à Hanoï. Bref, on a retrouvé une petite cousine qui parle un peu anglais.
Il faut enlever les chaussures.
Ouais.
Je vous laisse imaginer les appels WhatsApp pour caler l'arrivée. Ma mère raconte.
Et là, c'est l'aventure. Tu sais pas où tu vas.
Ciao, buổi sáng.
Tu sais pas comment il faut faire. Tu maîtrises pas la langue.
Tôi không nói tiếng Việt.
Elle parle pas l'anglais.
Bonjour.
Elle parle pas le français.
Je ne parle pas
Merci
français.
Merci Google.
Tôi đang tìm nhà của ta.
Avec toutes ces incompréhensions.
Bienvenue au Vietnam.
Et là, ça commence. Et là, c'est une attention, 24 heures sur 24.
Mais aller au Vietnam quand tu connais rien, surtout quand tu as des racines, ça te permet de comprendre beaucoup de choses sur ton éducation, bien évidemment, que tu as reçue. Donc après, tu t'intéresses à l'histoire, pourquoi, comment, à telle période, elle est arrivée, pourquoi cette période, qu'a-t-elle fait, pourquoi elle est partie là. Alors là, tu comprends un petit peu plus les motivations de ta mère qui lui ont permis d'avancer dans des directions qui n'étaient pas forcément les plus faciles.
C'est comme ça que l'idée du podcast est née. J'ai appris que ce type de voyage a un nom, le tourisme des origines. C'est une démarche souvent entreprise vers 30 ans par les descendants. Ça me fait sourire de voir à quel point nos cheminements sont prévisibles. Ce que je trouve à la fois subtil et génial, c'est que ces voyages ont des effets en ricochet dans les familles.
Mais d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai renoué avec le Vietnam. Parce que Eric est parti faire le tour du monde. Quand on lui a dit que le Vietnam s'ouvrait, il est allé directement au Vietnam. Et c'est de lui-même, il est allé chercher ma famille.
Le fils de Kim a été le premier de sa famille à partir au Vietnam. C'est lui qui a soulevé le rideau de fer du pays oublié.
Il paraît que ça a été la grande fête. J'ai encore des lettres où il disait « Maman, j'ai vu tout le village arriver, puis tout le monde lui faisait la fête. » Donc il est revenu enchanté, il est revenu avec du poisson séché, plein de souvenirs. Et ça m'a touchée parce que j'ai réalisé que, en fin de compte, mon passé existait.
Il faut se mettre dans la tête des Viet Kieu. Au moment de la levée de l'embargo, ça faisait 40 ans qu'ils vivaient dans la peur du retour. Encore aujourd'hui, certains et certaines ont peur d'être sur liste noire, de ne pas pouvoir passer la frontière, d'être arrêtés. Ils vivent dans la crainte du retour depuis 40 ans. Et là, leurs enfants leur ouvrent le chemin en disant « c'est bon, ils se souviennent de toi et je pense que tu peux y aller ». Alors qu'est-ce que ça change quand les descendants mettent le pied dans la porte? Est-ce que les mémoires peuvent encore être sauvées? Je suis Anaë Bossert et vous écoutez Ma Tonkinoise, une enquête familiale dans les mémoires enfouies de l'Indochine française. Épisode 4, là où les morts et les vivants se parlent.
J'avais envie de mettre en scène un restaurant vietnamien avec les gens qui font la cuisine, qui la mangent, qui la... voilà. Donc c'est parti de là.
Caroline Giela Nguyen, metteuse en scène de la pièce Saigon.
Je me suis dit... Mais c'est dingue, les restaurants vietnamiens qui font quand même partie de la vie de 99% des Français, parce que tout le monde va manger dans un resto viet dans sa vie, enfin, ne sont jamais sur les plateaux, les gens qui les habitent non plus. Je me suis dit, bon, bah, ça suffit, j'ai envie d'entendre la langue de mon enfance, j'ai envie de voir les visages. Et évidemment, quand tu mets en scène un restaurant vietnamien sur un plateau, ben, très vite, en fait, on arrive aux histoires de pourquoi est-ce qu'il est là. Ben, pourquoi est-ce qu'il est là? En fait, c'est évident, c'est juste qu'en fait, la France a colonisé le Vietnam. Et voilà, donc du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à cette grande histoire, quoi.
Ces populations se sentent
dans une lisière du récit national, comme s'ils étaient à la marge d'un récit. Et souvent, la troisième génération, celle qui commence à gratter l'histoire, si vous préférez, et celle qui commence à questionner le pourquoi elle est ici, à questionner la manière dont la France regarde son histoire coloniale, à questionner la manière dont la France pense justement ceux qui sont nés sur ce territoire et qui sont en fait issus d'un autre récit que celui qui sont des descendants de petits Gaulois.
Pascal Blanchard, historien, spécialiste du fait colonial et chercheur au CNRS, dans un webinaire du Club des Vigilants, mars 2021. Comme Caroline, d'autres descendants commencent à porter ces récits, souvent en tirant le fil de choses du quotidien. Les grandes questions peuvent être amenées par de plus petites.
Pourquoi tes enfants ne parlent pas vietnamien ? Je pense que ça, c'est une des premières questions que j'ai dû poser quand j'étais enfant.
Quand j'ai rencontré Kim à Nantes, il y avait aussi sa fille, Maëlie. C'est la cadette de la fratrie. C'est celle qui pose des questions, creuse, se renseigne. Un rôle que je connais bien. Il y en a toujours un ou une. Un peu le poil à gratter de la famille.
J'arrivais vraiment pas bien à saisir pourquoi, ni mon frère ni ma sœur ont parlé vietnamien. Et je crois que c'est beaucoup à partir de ce moment-là où t'as été un peu obligée de vraiment détailler l'histoire. Et là, il y a eu un déclic dans mon souvenir, parce que je crois que du coup, maman, tu m'as dit en fait, si là, je crois que je me sens quand même prête.
Tu te souviens pourquoi t'as basculé à ce moment-là ou...
Non.
Je me dis qu'il
fallait. Mais à force qu'elle me pose des questions, je cherchais mon identité quand même, tu vois. Et c'est comme ça, je me dis bon, il faut que j'y aille, quoi. Et puis maintenant, plus que jamais, parce que je pense que c'est important. Oui. Il faut.
Après, je me dis, c'est peut-être aussi au même moment où ça a commencé à parler de ces thématiques sur Instagram.
Parce que, il y a ça aussi.
Ouais,
bien
sûr. Du coup, toi, tu es allée très rapidement sur Instagram, malgré ton âge.
Oui.
T'es super moderne pour ça. Et il y a des collectifs comme Asiatitude.
Voilà, ou Banmi.
Les podcasts.
Banmi Podcast, Asiatitude, Asiatique et Noir de France sont des projets portés par des descendants et descendantes. La plupart diffusent des interviews de personnes de première, deuxième ou troisième génération. Ce partage public de paroles intimes dit aux familles « c'est ok, vous pouvez en parler ». J'ai donc rencontré Mélanie Hong, la fondatrice du collectif Asiatitude.
En fait, mon ambition en lançant Asiatitude, c'était de faire en sorte que les Asiatiques de France aient un espace où ils puissent s'identifier, où ils se disent « bah ça, c'est exactement mon vécu ». Et on sait à quel point s'identifier à des paroles dans les médias peut faire du bien. C'est hyper puissant pour la confiance en soi, pour sa construction personnelle. En fait, il y a beaucoup de stéréotypes, je pense, sur les Asiatiques qui sont issus de l'imaginaire colonial et ils vont se calquer sur les Asiatiques aujourd'hui en France. On a toutes les micro-agressions, on appelle micro-agressions, mais ça reste des agressions verbales. Donc, tout ce qui est shintok, mangeur de chien, bol de riz, les clichés sur la sexualisation aussi. Les hommes ont un petit sexe, les femmes sont dociles, sont souples. C'est quelque chose qui revenait beaucoup. Et donc, même moi qui suis vraiment aujourd'hui beaucoup plus engagée, j'ai pensé un jour, non, mais en fait, il n'y a pas de problème. J'ai même pensé que j'avais jamais connu de racisme, alors qu'en fait, j'ai passé mon enfance à entendre des shintok. Mais j'ai toujours dit que j'avais jamais eu de racisme dans ma vie. Donc, il faut vraiment du temps, je trouve, pour s'apercevoir qu'on subit, qu'on vit des choses et de mettre un nom dessus.
On est loin d'en avoir fini avec ces stéréotypes, mais maintenant, on en parle.
À mon époque,
on était
particulières. À l'école, tout ça. Il y avait des filles qui disaient « Ah, mais Kim, mais elle mange du chien » ou « Ah, mais c'est une cannibale !» Parce que ses ancêtres mangeaient de l'humain. Et moi, on me disait ça, ça me faisait rire, quoi. Mais maintenant, attends, je la massacre.
Tout ça provoque un effet d'entraînement. Les paroles dans les familles et celles des projets artistiques ou militants créent un cercle vertueux. Et ce cercle vient s'opposer au silence officiel.
On dit toujours qu'en fait, les Vietnamiens, ils parlent pas, ils racontent pas. Mais en fait, mais en même temps, c'est comme si on leur renvoyait la responsabilité que l'histoire ait été sous silence. Mais
Caroline Biela en fait, Nguyen, metteuse en scène de la pièce Saigon.
Moi, je suis très en colère quand on dit ça, parce qu'en fait, c'est tout un système politique qui a fait qu'en fait, on n'en parle pas. Et eux, du coup, ils n'en parlent pas. Mais en fait, c'est pas genre ça repose sur une soi-disant pudeur dans les familles dans lesquelles on raconterait pas. Mais en fait, non, ça c'est dépolitiser complètement l'histoire. C'est qu'en fait, on ne parle pas dans nos livres d'histoire de la colonisation vietnamienne. Et là, il n'y a qu'à voir. Tout d'un coup, moi, je parle. Alors, si les Vietnamiens étaient si pudiques que ça, qu'ils ne voudraient tellement pas que je te dis, personne ne serait venu voir ce spectacle. Ils auraient eu tous honte, tous peur. Mais non, en fait, ils sont vraiment beaucoup venus, enfin, les Viet Q, pardon, les Français d'origine vietnamienne, sont beaucoup venus voir le spectacle. Quelque chose, en fait, d'eux était heureux, soulagé, peut-être même fier hein, qu'il soit raconté, quoi.
Si ma grand-mère n'a pas raconté son histoire personnelle, c'était pour que ses enfants s'intègrent le mieux possible et échappent à ce qu'elle avait vécu. Et si je n'ai rencontré l'histoire de son pays qu'à travers mes recherches personnelles, jamais à l'école, ce n'est pas parce que ma grand-mère était trop pudique. Donc ce soulagement d'être enfin raconté, cette fierté, je les ai sentis dans la salle de Saigon. Je me rappelle très bien. Devant moi, il y avait un grand-père vietnamien. Il était venu avec toute sa famille. Et il a sangloté pendant tout le spectacle, en silence. Je ne voyais que son dos trembloter dans le noir. Et quand le rideau est tombé, il s'est levé, toujours en larmes, et il a mis toute sa force dans ses applaudissements.
On n'a jamais vu ça, mais vraiment, c'est-à-dire des quarts entiers de Vietnamiens, de Viet Q, d'enfants. La dernière fois qu'on a joué à Sceaux, il y a deux jeunes filles qui sont venues me voir. Elles ont fait du stop, elles venaient de Montélimar. Les deux étaient métis ou carteronnes, peut-être comme toi. Elles n'avaient pas de place. Alors, on leur a trouvé des places au dernier moment, mais pour venir voir cette histoire, elles en avaient besoin.
Carteronne, ça veut dire métissée à un quart. Comme moi, avec ma grand-mère vietnamienne et mes trois autres grands-parents français. En soi, c'est un terme de désignation qui est directement hérité du vocabulaire colonial. Mais ça m'est déjà souvent arrivé de me présenter comme ça.
Au moment de le faire, est-ce que tu avais conscience que ça allait être autant un bloc d'appui, à la fois pour des Viet Q dont on montre directement l'histoire, mais aussi pour des descendants qui se posaient des questions et qui ne savaient pas trop quoi en faire?
Non, mais pas du tout. Je ne m'en rendais pas du tout compte, vraiment. C'est en faisant ce spectacle que j'ai rencontré mes propres questions. Au début, j'avais décidé... C'était un principe narratif comme ça, bête. Je m'étais dit, ben tiens, ils ont quitté le Vietnam, donc 54 défaites de Dien Bien Phu. Et bon, en gros, ils ont 2 ans vraiment d'ardard pour quitter le Vietnam. Donc je me suis dit, tiens, on part de 56. Et je me dis, ben tiens, super, on va aller jusqu'en 60 ans plus tard, 2006, quoi. On va faire, voilà, 60 ans d'écart. On commence les répètes et tout, donc on travaille sur 2006 et tout. Et en fait, à un moment, il y a Hip, qui joue donc dans Saigon, qui me dit « Caro, en fait, pourquoi est-ce qu'on est en 2006 ?» Tu sais, en fait, il y a une date qui était importante pour nous, c'est 96. Et je lui dis « Mais attends, pourquoi 96 ?» Il me dit « Ben c'est 96, c'est la levée d'embargo, c'est là où on peut revenir et tout. »
96, la première fois où des Vietnamiens et Vietnamiennes qui ont quitté leur pays peuvent y remettre les pieds et revoir leurs proches.
Mais en fait... Ce qui est dingue, c'est que 96, je m'en souviens très bien, j'avais 15 ans, je m'en souviens très bien de ces moments à table avec toute ma famille, où j'ai la moitié de ma famille en train de pleurer, l'autre moitié qui veut partir, l'autre moitié qui veut pas partir, ma grand-mère qui décide de partir, mais avec quel enfant elle veut partir, qui c'est qui pense qu'il parle vietnamien encore ou pas, enfin, je m'en souviens tellement. Et en fait, je n'avais pas considéré que c'était une date. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était une date qui concernait mon salon avec la fameuse tu vois, télécommande sous plastique. Mais en fait, non, c'était une date comme... par contre, la chute du mur, c'était sûr que c'était une date pour moi, tu vois. Mais 96, c'était pas encore une date. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, j'ai rencontré les questions de mon histoire en faisant ce spectacle. Mais sur le moment, j'étais vraiment... J'y allais un peu naïvement, en fait.
collecter les témoignages des premiers concernés, c'est ce que l'historien Benjamin Stora nomme la mémoire orale. Selon lui, ces nouvelles paroles éclairent différemment l'histoire officielle. Ça permet d'identifier des dates clés de son histoire familiale, déconstruire les clichés, se sentir représenté et surtout, d'oser se raconter.
Il est là-bas, je vais te montrer.
Ok.
Il est là-bas. Tu veux aller le chercher ?
Oui. Kim et Maïli ont commencé un projet artistique autour de la transmission.
Ça aussi, c'est...
Je suis ici dans leur atelier à Nantes.
On travaille ensemble sur un projet de livre pour enfants illustré à quatre mains sur du coup son parcours depuis le Vietnam jusqu'en France.
Et comment ça se passe le...
Elle me pose des questions et je lui réponds en dessin.
Ok.
Oui.
Là, par exemple, c'est ça qu'on voit.
Oui, c'est ça. Là, on voit. C'est pour l'instant le titre provisoire.
D'accord.
C'est Racine Indochine. Et il y a 11 et questions. Ouais, et notamment, ça commence par Maman, d'où viens-tu ? Donc, l'idée, c'est que sur la page de gauche, il y a moi, enfant, qui pose à chaque fois une question à ma maman. Et ensuite, sur la page de droite, il y a du coup une illustration de ma maman qui répond du coup. Mais il y a aussi un peu de texte. Donc, en ce moment, en fait, je l'interview, justement.
Avec Kim, l'ouverture de la parole a eu des effets en cascade. Elle a fait ce livre avec sa fille. Elle est retournée au camp d'accueil à Sainte-Livrade pour la première fois depuis 60 ans. Elle a accepté d'être interviewée ici. Et surtout, elle a changé de prénom. Elle a fait la démarche inverse de ma grand-mère. Troquer un prénom français qui ne lui signifiait rien contre un prénom vietnamien. Kim, qui veut dire « or » en vietnamien, n'est pas son prénom de naissance. Au départ, elle s'appelait Henriette, car au Vietnam, enfin en Indochine, l'état civil avait demandé à ce qu'elle porte un prénom français.
En vietnamien, tu sais, le R, ça se prononce pas. Donc ma mère, au lieu de m'appeler, elle faisait Yet Yet. Voilà, elle m'appelait Yet. Puis avec les personnes qui m'employaient, on a dit Kim. Et j'ai pu le changer officiellement qu'il y a 3 ans. Henriette, ça ne correspondait à rien. C'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'était comme ça. Qui voulait absolument rien dire. Voilà, donc je m'appelle Kim et je suis beaucoup mieux. Depuis, je vois moins mon psy.
Ça nous permet d'arroser en fait les petites graines d'asianité en nous.
Mélanie Hong, fondatrice d'Asiatitude.
Tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vit en France, on a un sol français, mais quand je dis un sol, c'est on a un terreau français où on mange français, on peut parler français, la langue tous les jours. On a plein de choses de la culture française qui va de soi. Et en fait, le côté asiatique, il faut l'arroser, il faut planter des petites graines pour pouvoir l'entretenir et être fier d'avoir cette double culture.
Les plantes qui poussent sont multiples. Ma mère, depuis le décès de Tan Giselle, prend des cours de vietnamien. Avec son groupe, elle discute du Vietnam, va à des événements et se connecte davantage à son héritage. C'est même elle qui m'a fait découvrir le travail de Grace Lee, une militante antiraciste super active. C'est le monde à l'envers. Depuis 4 épisodes que l'on se suit, vous êtes désormais plus alerte sur la guerre d'Indochine ou l'exil des Vietnamiens des années 50. Simplement parce que vous en savez davantage.
Moi, j'aimerais savoir si le...
Peut-être que la prochaine fois que vous irez dans un restaurant viet, vous remarquerez la statue de la Vierge à côté du Bouddha.
Ouais, moi, je prends ça.
Ou le fait que les banh mi soient un assemblage bizarre de baguettes françaises et de pâtés traditionnels vietnamiens.
Pour le printemps.
Moi, j'adore. Mais ça raconte aussi l'histoire. Ça n'existait pas au Vietnam avant la colonisation. La politisation, c'est cet art de l'attention. Parler, c'est mettre la lumière sur un sujet, le faire exister, le faire grandir. Le philosophe Baptiste Morisot définit le politique justement comme le déplacement des seuils de ce qui mérite notre attention. En 2024, ce sont les 70 ans de la fin de l'Indochine française. Est-ce qu'on verra des prises de parole politiques ou un film de l'ampleur d'Indigènes ou Tirailleurs ? C'est difficile à prédire, mais les projets se multiplient.
Ça fait 2 ans que je travaille sur une exposition dédiée aux migrations de l'Asie de l'Est et du Sud-Est en France.
J'ai créé une association qui s'appelle aussi Asiatitude.
Nous, on a intitulé notre livre post-réfugié.
C'est en faisant ce spectacle que j'ai rencontré mes propres questions.
On travaille ensemble sur un projet de livre pour enfants illustré à 4 mains.
De mon côté, j'ai bien sûr commencé à connecter des traces de ma culture fantôme. J'ai retrouvé des bribes d'accent dans les archives, une manière de raconter les drames chez Kim, et des odeurs de cuisine dans les restaurants où je donnais rendez-vous. Mais contrairement à ce que je pensais, suivre les traces de ma grand-mère ne m'a pas fait découvrir le Vietnam. Ça m'a fait découvrir l'exil du Vietnam. Son salon, dans lequel j'ai passé tant d'heures, me paraît maintenant beaucoup plus mélancolique que folklorique. C'est pas un salon de vietnamienne, c'est un salon de Viet Q. Un salon de vietnamienne qui est partie, qui a connu la guerre, le départ, l'intégration. Finalement, une histoire française.
Depuis tout ce temps, je me disais que nous étions nés de la guerre. Mais je me trompais. Maman, nous sommes nés de la beauté, que nul ne nous confonde avec le fruit de la violence. Mais cette violence a beau avoir traversé le fruit, elle n'a pas réussi à le gâter.
Un bref instant de splendeur, Ocean Vuong. Pour moi, le travail des descendants raconte aussi ça. Passer de la violence subie à la beauté créée. Comme Kim, avec son changement de prénom. Moi, mon nouveau lieu de beauté, c'est la pagode. Bon, rien que le dire comme ça, ça me fait bizarre. Je suis pas devenue bouddhiste, loin de là. Mais je me suis rendu compte que j'avais envie d'y aller, dès que je passais par Marseille. Ce lieu a commencé à exister pour moi. On est en train d'y aller avec ma mère. C'est un nouveau rituel entre nous, que ma grand-mère a transmis, pas de son vivant, certes, mais il est tangible et émouvant. Là où les morts et les vivants se parlent, son portrait trône toujours dans la salle de prière. Et chaque dimanche, le vénérable, que je connais maintenant, dit son nom. Au milieu du vent dans les montagnes et des champs, je la regarde, je rempote une plante, en écoutant quelques prières, sans oublier de mettre des petits sous dans la boîte. Je me dis que ça doit bien l'amuser. Vous venez d'écouter le dernier épisode de Ma Tonkinoise. Une enquête familiale dans les mémoires enfouies de l'Indochine française. Une saison du podcast Injustice de Louis Média. Je suis Anna Ebosser, j'ai tourné et écrit cette série. Elle a été réalisée par Anna Bui et la musique a été composée par Michael Liu. Le mix et l'enregistrement ont été faits par le studio La Fugitive. Louise Emerlé est à la production, accompagnée d'Elsa Berthaud et de Kiana Fonchon. Natacha Avram est responsable des productions, Mélissa Bounoua et Charlotte Pudlowski sont à la direction éditoriale. Je tenais à remercier Kim pour son témoignage précieux, ma mère, mon oncle et ma tante pour leurs paroles libres, mon judge et l'équipe de Louis Média pour leur soutien. À bientôt.
Merci pour votre écoute et merci au journal Libération d'être partenaire de Ma Tonkinoise. À cette occasion, Louis vous offre un mois d'abonnement gratuit à Libération sans engagement. Rendez-vous sur libé.fr/code promo et entrez le code Louis tout en majuscule. Vous n'aurez même pas besoin de votre carte bancaire. Bonne lecture et bonne écoute.